Je commence d'abord par la question la plus simple des trois critiques. Il y en a une qui est simple pour nous, c'est la dernière, c'est celle sur la hiérarchie entre le producteur qui serait le gars minable et le prince qui serait la noblesse du fonctionnaire, je suppose. Bon, par construction, cette idée n'a pas de sens pour nous. Ce n'est pas qu'elle est juste ou fausse, elle n'a pas de sens. Parce que chaque individu a lui-même son propre moi sur moi et ça. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, un individu qui fait partie du ça ou qui fait partie du... ou le prince, il a son moi, son surmoi et son ça. Donc il a lui-même son côté fonctionnaire, prince, je sais pas quoi, noble, et son côté tiers-état, laborieux et les mains dans le cambouis. Donc il faut bien voir que la construction est compliquée quand même. Hein. Nous ne nions pas du tout qu'il y a au niveau de chaque individu chacune de ces différentes instances. Et ensuite, on les a à tous les échelons, en quelque sorte, à tous les étages, y compris bien sûr dans l'entreprise. Donc dans l'entreprise, il y a un moi sur moi, etc. Donc et évidemment, enfin, quiconque a travaillé dans une entreprise sait que sans le ça, il n'y a pas d'entreprise. Et je ne suis pas en train d'avoir une vision réaliste ou de Zola de l'entreprise. J'ai une vision même d'une entreprise de service que je connais bien, où je vois que, aussi bons soient les chefs, soient les princes, s'il n'y a pas des tas de gens incroyables qui font des choses formidables au niveau des initiatives, au niveau du commerce, au niveau du business, ça ne marche pas. Hein. Donc... Je vois très bien la critique, et on prend la maladresse peut-être des termes, hein, mais je ne mets pas dans le prince une valeur particulière, enfin je ne crois pas, ni dans le prêtre ou dans le professeur. Hein. Chacun de nous a son propre ça. Hein. Il y a aussi dans les princes un ça qui est tapis et qui est très important. Hein.
La question de la mesure. Je ne crois pas que toute science exige nécessairement, toute connaissance, soyons modestes, exige nécessairement une mesure. Alors effectivement, il y a des données quantitatives à propos de la démocratie qui ne se résument pas à une segmentation selon l'ordre alphabétique. On a regardé d'autres segmentations.
Oui, non, mais je n'ai pas nié ça. Mais j'ai trouvé
et on a montré en particulier que la segmentation d'Emmanuel Todd était relativement pertinente et celle de Huntington l'était davantage. On voit bien que les déterminants de la démocratie trouvent leur source dans des structures profondes de la société, des structures familiales ou des structures culturelles. Voilà. Alors, la mesure, il y en a un petit peu dans cet ouvrage, mais cet ouvrage ne prétend pas à dire l'alpha et l'oméga et résumer le fonctionnement de la société ou donner une interprétation unique. Je crois que plus modestement, on s'est livré à un exercice d'herméneutique, c'est-à-dire on propose une grille d'interprétation qualitative dans laquelle rentrent un certain nombre d'événements, un certain nombre de phénomènes. Donc il y a derrière un principe d'économicité, c'est-à-dire avec peu de moyens, avec peu de concepts, il n'y en a pas énormément dans la construction freudienne, on rend compte d'une diversité de situations assez grande. C'est un principe d'interprétation qui est parallèle, qui se veut parallèle à une interprétation strictement économique fondée sur les intérêts ou une interprétation politique fondée sur des luttes de pouvoir. Donc c'est une interprétation qui est parallèle et qui peut éclairer certaines données ou certaines situations. Alors la question de la thérapie, alors là la réponse est très simple. Loin de nous l'idée de proposer un quelconque remède. Dans la mesure où on prétend ou souhaite analyser la société prise comme un tout, il est très difficile de s'extraire de cette société et de se poser en thérapeute. C'est possible pour un psychanalyste qui a un patient assis sur son divan. C'est impossible, hors de portée, pour un analyste qui est plongé lui-même dans le corps social. Donc tout ce que nous cherchons à faire, c'est d'élucider, de mieux comprendre, et peut-être, non pas de mesurer ou de proposer des remèdes, mais d'imaginer des évolutions, d'imaginer des perspectives, des scénarios d'évolution avec les outils que nous proposons.
Oui, les croyances, bon, je...
Qu'est-ce que c'est l'harmonie?
Je suis d'accord qu'on peut interpréter, on peut avoir plusieurs interprétations des croyances, mais il n'empêche que nous sommes dans un univers de croyances, hein, et dans un univers qui génère des croyances en permanence. Hein, et même, je dirais, le storytelling tel qu'on le voit aujourd'hui est devenu une sorte de mode permanente, hein, de fonctionnement de toutes nos sociétés, de toutes les entreprises, de tous les marchés, etc. Donc si les croyances sont en permanente construction, hein, bon, alors on peut avoir des différentes interprétations, de la même manière que des psychanalystes peuvent avoir des différentes analyses parfois de leurs malades. Hein. Donc je ne me prononcerai pas sur Schumann et Gasperi, mais je crois qu'on peut interpréter effectivement sans doute de plusieurs manières les croyances à l'origine de l'euro.
Sur la question des croyances, je me rappelle d'une émission assez extraordinaire de Bernard Pivot. C'était dans les années, fin des années 90, où il y avait quatre personnages. Il y avait Jean-Marie Messier, l'homme de Convergence Contenant-Contenu, Alain Touraine, émerveillé par ce que disait Jean-Marie Messier, Bernard Pivot, émerveillé par ce que disait Jean-Marie Messier, et Jean Gadret, un économiste spécialiste qui avait étudié l'économie, la nouvelle économie, et qui était sceptique. Et c'était extraordinaire parce qu'on voyait donc Jean-Marie Messier avec des grandes envolées, Alain Touraine émerveillé, et puis Bernard Pivot aussi. Et Jean Gadret disait, mais j'ai une petite objection. Et jamais, pendant une heure, il a réussi à développer plus de deux phrases. Et il a été coupé. Il se trouve que j'avais regardé cette émission, j'ai invité Jean Gadret 3-4 mois plus tard à l'école de Paris. Il y avait 500 personnes. Et c'était juste après l'éclatement de la bulle. Et du coup, c'est marrant, tout le monde l'écoutait. Mais j'avais rarement vu autant, c'était évidemment Jean-Marie Messier, c'était dans son intérêt, mais un sociologue quand même. J'avais jamais vu une telle incapacité d'entendre des choses qui se décalaient par rapport à la croyance du moment. Et c'est marrant parce qu'à la télévision, je ne sais pas si je pourrais retrouver l'émission, mais c'est hallucinant.
Oui, je voudrais ajouter également un autre point sur la thérapie, enfin d'ailleurs quelque chose qui fait le lien entre mesure et thérapie. Évidemment, nous ne proposons pas de solution, etc. Simplement, je crois quand même que s'il y avait une règle qui en découle, c'est qu'il est très important qu'il y ait des gens qui soient en vigilance permanente, c'est-à-dire qui essayent d'objectiver les situations. C'est-à-dire, effectivement, pour révéler le plus clairement possible et le plus précocement possible les incohérences entre les croyances et la réalité. Les galerets du moment, quoi, sont absolument indispensables, et je crois que c'est ça ce qu'il faut qu'on réussisse, ouais, à construire en toutes circonstances, ce qui est très difficile. Ouais,
de l'expérience de l'école de Paris, ce que je sais, c'est que quand il y a une nouvelle manie, c'est extrêmement difficile d'organiser une réflexion un peu décalée, parce qu'on peut se faire très mal voir. Quand on avait fait la soirée sur l'Internet, c'était jusqu'où croire à la nouvelle économie. Il y a eu 500 personnes qui se sont inscrites. On avait lancé l'invitation un peu avant l'éclatement de la bulle, ou c'était juste avant. Et on commençait à pouvoir se décaler, à écouter Jean Gadret. Ensuite, on a fait une autre séance qui s'appelait « Le véhicule économique va-t-il enfin démarrer ?» C'était un moment où tout le monde parlait du véhicule électrique. Va-t-il enfin démarrer ? Il y avait 700 personnes qui voulaient venir dans cette salle, et j'avais invité Patrick Pellata. Je lui avais dit, tu vois, oula, s'il y a autant de monde, ça veut dire que c'est une bulle qui est proche d'éclater. Il me dit, dis pas des choses comme ça, ça va porter malheur. On peut pas dire que le véhicule électrique est encore vraiment décollé. Et puis récemment, on a voulu faire une séance sur les MOOC. Je suis convaincu que c'est une nouvelle manie. On a réussi à se décaler un petit peu, c'était une séance pas mal. Bien sûr, tout ce qu'on a pu dire va sans doute être enseveli sur beaucoup d'autres propos qui seront tenus sur les MOOC. À chaque fois, on voit bien quand il y a un moment, une espèce de contagion des esprits, c'est vachement dur de sonner l'alerte. Post-Elvinet au fond.
Dans les exposés très brillants que nous avons eus, j'ai vu passer les pères, les fils et les petits-fils. Alors je m'interroge sur les arrière-petits-fils, c'est-à-dire au vu des élections récentes, deux considérations. D'abord, il y a l'Europe du Nord et du Sud. Celle du Nord a accumulé en 10 ans à peu près 3 000 milliards d'euros d'excédents. Celle du Sud, pratiquement autant de déficits. Alors l'Europe, globalement, est un peu en surplus. Donc ça, c'est une première différence. Et deuxièmement, le chômage en Espagne des jeunes de moins de 25 ans doit être de l'ordre de 55%, pas loin de la même chose en Grèce, au Portugal un peu moins et en Italie un peu moins, mais c'est le même ordre. Et en France, c'est 25%, alors que c'est 7% en Allemagne. Et le résultat des élections, c'est que les partis populaires, les populistes sont nourris par les jeunes et que pour la première fois en France, les moins de 30 ans ont voté à 30% Front National. À côté de ça, les institutions européennes ont décidé qu'il fallait s'occuper des jeunes et qu'on mettait 6 milliards sur cet intéressant sujet, ce qui au regard et du budget européen et des montants macroéconomiques en cause n'est peut-être pas grand-chose. Voilà, par rapport au schéma fédéralisme, enlisement et éclatement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un schéma dans lequel on peut viser quelques priorités simples qui éviteraient de rentrer dans des spirales déjà connues ?
On peut bien sûr tout imaginer. Je ne suis pas sûr que nous ayons dans notre analyse elle-même quelque chose qui permette de répondre à cette question. Il est certain que le fait d'avoir trois scénarios est une vision certainement très réductrice. La réalité nous détrompe toujours. Une autre manière de dire quelque chose sur l'Europe, c'est au fond de dire que l'Europe, elle a fonctionné à l'envers. C'est-à-dire que quand vous faites une fusion de deux entreprises, vous commencez par réunir les têtes. C'est les chefs qui doivent se mettre d'accord sur qui sera le chef des chefs, quel sera l'état-major, quelles seront les valeurs de l'entreprise, et derrière, il faut que le reste de la troupe suive. L'Europe a fait le contraire. L'Europe, d'une certaine manière, a pris une démarche qui n'est pas du tout celle-là, puisqu'elle veut se construire par l'union des peuples, d'une certaine manière, par la convergence des peuples, ce qui est un processus extrêmement lent. Bon, alors peut-être que par la jeunesse, il y a des éléments d'accélération de cette convergence des peuples, mais sans doute d'ailleurs, hein, c'est sans doute par là qu'on peut le faire. Mais c'est de toute façon un processus très lent. Et c'est là la contradiction de l'euro aussi, c'est que l'euro est un élément très unificateur d'identification qui visiblement ne suffit pas aujourd'hui et qui introduit d'autres contraintes, et alors économiques elles-mêmes.
Moi, je veux bien répondre à cette question qui n'a rien à voir avec le sujet de la soirée, mais je vais répondre à la question quand même, parce que ça n'a rien à voir avec le livre et tout ce qu'on a dit. Mais sur cette question, moi, je ferai deux remarques. Le fait qu'il y ait de l'épargne au nord et qu'il y ait de la dépense au sud, ça me dérange pas. Ça a toujours été comme ça. Il y a pas de raison pour que systématiquement tout le monde soit en situation de surépargne. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'épargne au nord? Parce qu'il n'y a pas d'habitants. Il y a de l'épargne en Allemagne parce que l'Allemagne vieillit et que tout pays qui vieillit dégage des taux d'épargne. Je rappelle qu'un excédent extérieur, c'est un arbitrage épargne-consommation favorable à l'épargne. Il y a de l'épargne au nord parce qu'il n'y a plus d'habitants. Et donc, il y a des maisons de retraite au nord, que les maisons de retraite accumulent de quoi préparer leur retraite, ça me paraît normal. En revanche, ça a toujours été comme ça. Et quand on regarde, moi j'apprends, puis j'ai appris et tout ça, l'exode rural, c'était quoi l'exode rural? C'était effectivement des déplacements de population au sein d'un même territoire, de zones qui étaient des zones qui n'étaient pas productives vers des zones qui étaient plus productives. Personne ne s'est ému du fait que l'unité allemande a eu comme conséquence de faire que Berlin s'est explosé et que le Mecklembourg s'est vidé. Et maintenant, on est en train de dire, si jamais les Espagnols ou les Grecs vont en Allemagne, c'est le STO. C'est ça qui est important. C'est pas qu'il y ait des excédents extérieurs en Allemagne et qu'il y ait du déficit en Grèce et en Espagne. C'est normal qu'un pays comme l'Espagne soit en déficit de balance des paiements, parce que quand vous êtes en retard, vous avez besoin d'investissement. Quand vous avez besoin d'investissement, vous avez besoin d'importer ces investissements. Dans la zone, quels sont les pays qui sont les plus en déficit? C'est la Turquie, parce que la Turquie est en train de s'équiper avec l'épargne allemande. Le véritable problème pour moi, c'est que quand un gars du Mecklembourg allait à Berlin ou quand un Auvergnat se rendait à Paris, quand il arrivait à Paris, il s'installait dans un quartier bien déterminé. Tous les Bretons sont à côté de la gare Montparnasse, tous les Auvergnats sont à côté de la gare d'Austerlitz, mais personne ne considérait qu'il était déporté. Maintenant, quand un Grec va s'installer en Allemagne, on dit c'est le STO. Et c'est ça l'échec du projet européen. C'est pas un problème de compétitivité, de balance des paiements courants. Tout ça, ça n'a aucun sens. Ce qui a un vrai sens, c'est quand vous prenez la compétitivité, quels sont les endroits qui sont les moins compétitifs? C'est pas la Seine-Saint-Denis, puisqu'encore une fois, elle dégage des excédents extérieurs pour des raisons qu'on connaît. C'est la Corse et la Sardaigne. Bon, j'attends le jour où il y a quelqu'un qui dira la première priorité, c'est de sortir la Corse de la zone euro et donc de l'Union européenne. Bon, si vous dites ça, tout le monde dit mais c'est fou. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais tu sais ce que tu dis là, toi là? Bon, donc c'est inenvisageable. En revanche, sortir les Grecs, et donc pour moi, le projet européen, l'échec du projet européen, il est là. On peut sortir les Grecs, on peut pas sortir les Sardes et les Corses. Bon, moi je préfère garder les Grecs et me débarrasser des Corses, entre nous.
Il y a quand même une toute petite différence, c'est que les Grecs qui vont en Allemagne sont obligés de suivre des cours accélérés d'allemand, les Corses n'ont pas ce problème. Donc les mouvements de population visant à rééquilibrer les marchés du travail sont des mouvements extrêmement lents et extrêmement laborieux et pénalisants pour des populations qui n'étaient pas a priori préparées à cela.
J'entends bien, c'est la construction du projet, mais je rappelle que l'école publique laïque qui a été créée en 1882, elle partait du constat qu'en 1870, quand les officiers donnaient des ordres en français, les gens comprenaient pas. Et donc l'Auvergnat qui arrivait à Paris, dans les années 1870, il était comme le Grec qui arrive en Allemagne. Il ne comprenait pas, mais il était accueilli. Alors que là, il arrive avec un journal qui dit « Les Grecs sont paresseux et sont des voleurs ». Bon, c'est tout.
Philippe Gignet-Gillet, merci pour ce modèle qui aide à réfléchir. J'ai justement une question sur, en fait, dans le terme que vous avez employé, je trouve frappant qu'il y a un terme qui est assez classique en économie que vous n'employez pas. Et donc, comme on dit, Freud, c'est le non-dit, donc ce qui n'est pas employé. Et un terme qui est quand même très fortement autour de la pulsion et aussi de l'instructuré, qui est celui de consommateur. Et le consommateur, c'est, en tout cas dans l'acceptation au public, c'est quand même un lieu d'irrationnel, c'est un lieu qui n'est pas obligatoirement aussi structuré qu'une entreprise. Et donc, pourquoi ne pas l'avoir utilisé? Après tout, est-ce qu'aujourd'hui on a un prince qui serait capable de dire au consommateur « serre-toi la ceinture » Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'a pas un problème aussi entre le prêtre et le pasteur dans la crise européenne? Voilà.
Vous êtes beaucoup plus intelligent que nous. Notre démarche, c'est une démarche. Donc, qu'on l'applique à un ensemble des consommateurs, pourquoi pas. Encore faut-il que ce groupe soit structuré, c'est-à-dire qu'il ait une cohérence, une logique, une sorte de but commun, quoi. Les consommateurs sur Internet, bon, on peut dire que c'est un groupe qui a peut-être certaines caractéristiques, ou les consommateurs de certains types de produits ont peut-être certaines caractéristiques. Voilà, je crois qu'il faudrait être sûr qu'on a un groupe structuré, cohérent, et auquel on puisse appliquer la démarche avant de l'appliquer. Mais une fois qu'on trouve il y a certainement des groupes avec des consommateurs qui sont des groupes structurés, à ce moment-là, bien entendu, on peut appliquer la méthode pareil.
Cleveland, professeur à l'École des mines. Je suis tout à fait intéressé par les fantasmes, les illusions, les croyances, mais il y a quand même des réalités substantielles qui déterminent largement le destin des nations. En ce moment, il y a des commémorations tout à fait légitimes de la guerre de 14, puisqu'on est en 14 aussi. Et ce qui frappe, c'est les boucheries absolument invraisemblables à laquelle cette guerre a donné lieu. On parle de 30 000 morts par jour, chemin des dames, la Marne, etc. Et il est clair que ça structure la conception que l'on a de l'Europe. Ce qui a frappé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas eu des tueries comme ça. Il y a eu la collaboration. On va discuter, on va se mettre d'accord, on va se mettre au service d'eux, comme ça économise les tueries. Ça n'a pas économisé toutes les tueries, mais enfin, ça a quand même beaucoup moins meurtrier que la Première Guerre mondiale. Cela étant, aujourd'hui, comme dans l'Empire romain, il faut panem et circe sans cesse. C'est-à-dire que le peuple s'ennuie. D'abord, il est terriblement malheureux, il se révolte quand il a faim, mais il a besoin de combat. C'est des gladiateurs, c'est des lions, c'est des esclaves, il faut qu'on s'entretue. Parce que si on ne s'entretue pas, les journaux n'ont rien à dire, les politiciens n'ont pas de décision à prendre, la scène est vide et ennuyeuse. Je me demande si l'harmonie que Jean-Marc Daniel à bon droit appelle de ses voeux n'est pas une crise tout le temps. Je terminerai par quelque chose de très frappant. C'est une étude des ingénieurs élèves auxquels Berry fait souvent allusion à juste titre. C'est à quoi sert l'effet de serre? Question qui a été posée à l'époque où c'était le grand sujet des journaux. À qui sert l'effet de serre?
À qui sert l'effet de serre?
Et ils ont observé que l'effet de serre est contemporain de l'effondrement du mur de Berlin. C'est-à-dire que les gens se réunissaient pour combattre le camp rouge, qui nous voulait tant de mal, et ça remplissait les journaux. Et puis là-dessus, il n'y a plus de camp rouge. Mais alors, pourquoi on va se réunir? Pourquoi on va signer un document? Pourquoi on va faire des trucs à Kyoto ou ailleurs? Et on a trouvé un formidable ennemi, le gaz carbonique. C'est encore mieux que les communistes. Mais au moins, les journaux ont quelque chose à dire, et le peuple a ses jeux du cirque.
Juste sur l'effet de serre, notre interprétation est très différente. Notre interprétation, c'est de dire l'effet de serre ou la menace sur l'environnement, les peurs climatiques, etc., c'est une sorte de régulation qui nous est imposée par l'extérieur et d'une certaine manière, c'est la seule manière dont nous sommes capables de nous réguler. C'est-à-dire, alors c'est peut-être la guerre, comme nous n'avons plus en nous-mêmes ces forces internes qui, d'une certaine manière, introduisaient des freins, des limites, etc., la seule manière dont nous régulons, c'est soit en nous heurtant au mur, chaque fois qu'il y a une crise financière ou je sais pas quoi, soit en voyant apparaître des contraintes exogènes, comme effectivement la contrainte environnementale, les raretés sur l'eau, sur l'énergie, sur je ne sais quoi, que nous ne savons pas traiter, que nous avons beaucoup de mal à traiter, à internaliser, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est la seule régulation qui se met en place, en quelque sorte, mais qui s'impose à nous aussi.
Qui s'impose, c'est un mot un peu fort peut-être, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation légitime, mais on ne peut pas dire que les dispositifs mis en place sont encore extrêmement contraignants.
Non, d'accord, mais qui s'impose au sens, si on croit qu'il y a un vrai problème climatique ou environnemental, il y a quand même un problème climatique ou environnemental, quoi. Il y a une butée quelque part. On l'anticipe mal ou on le prend mal en compte, mais elle est là quand même, quoi. Donc ça, c'est une régulation.
Pour répondre à Claude Rivlin, je suis pas sûr que les guerres soient un moyen de distraire le peuple. Je crois qu'elles ont d'autres fonctions. Elles sont la manifestation d'instinct de mort, de pulsion de mort, d'antagonisme, dont on peut rechercher les racines psychiques, politiques ou autres, mais aussi psychiques. Donc dire la guerre de 39-45 a été moins meurtrière que derrière 14, je suis pas sûr que les Russes soient complètement d'accord avec ce diagnostic. Alors aujourd'hui, plutôt que des guerres, on a la Coupe du Monde, on a toute une série de choses pour amuser la population, et je pense que c'est davantage satisfaisant.
Bonsoir Pierre Lachaise. Je voudrais entrer dans votre jeu et pour ça j'appellerais névrose le fait que l'Allemagne soit extrêmement opposée à toute forme de création monétaire, bien sûr principalement par la BCE. Alors pourquoi je dis que c'est une névrose, si j'ai bien compris, c'est une forme de surmoi, de surinterdiction. Pourquoi c'est une névrose et c'est pas le résultat d'un raisonnement? D'une part, souvent ce qui est évoqué c'est le fait que c'est l'hyperinflation qui a amené Hitler au pouvoir. Or, historiquement, c'est faux, puisque après la crise de l'hyperinflation, Hitler était au plus bas et parlait même de se suicider. Donc ce qui a amené Hitler au pouvoir, c'est la crise de 1929, et c'est pas du tout l'hyperinflation allemande. Donc là, il y a une forme de discours qui est assez étonnant. Et puis l'autre chose qui pourrait faire dire que c'est une névrose, cette crainte de la création monétaire, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand même, il me semble que beaucoup d'économistes disent que la politique dite de rigueur ou d'austérité est contre-productive. Donc est-ce que vous pouvez, à la fois par rapport à vos travaux freudiens et votre position d'économiste et de financier, nous éclairer sur cette position qui vit jusqu'au bout, qui paraît un peu irrationnelle, des Allemands?
Comment expliquer l'acharnement des Allemands à s'opposer à toute forme de création monétaire par la Banque centrale? Je crois que c'était d'abord inscrit dans les statuts de la Bundesbank et dans le deal que Mitterrand et Kohl ont noué, il y avait à la base l'idée que, moyennant la réunification de l'Allemagne, consentie par la France et l'Angleterre, les Allemands reproduisaient leur modèle et l'appliquaient à l'ensemble de l'Europe. Alors pourquoi cet acharnement, ces statuts de la Bundesbank? Alors il y a effectivement l'idée que l'inflation c'est l'ennemi depuis le début. Hein. 1922, je suis d'accord avec vous, Hitler n'a rien à voir avec ça. L'hyperinflation date de 1922 et non pas de 1933, c'est 10 ans auparavant. Le souvenir reste cuisant malgré tout. Hein. Et l'Allemagne a prospéré avec une monnaie forte. Le Deutsche Mark s'est réévalué à plusieurs reprises et a permis un positionnement industriel de l'Allemagne exemplaire. Donc on peut comprendre leur attachement à une forme de vertu monétaire. Alors aujourd'hui, ils ont sans doute mis de l'eau dans leur vin du Rhin. Ils ont accepté justement le coup de force de M. Draghi, le fait qu'il rachète des titres, certes sur le marché secondaire, mais qu'il rachète des titres. Dans la situation que nous venons de vivre, la crise majeure, la grande récession, il est clair que une création monétaire ex nihilo par la Banque centrale était le remède. C'est le remède appliqué à grande échelle par les États-Unis, c'est le remède qu'ont appliqué les Anglais avec un certain succès. Donc l'Europe a traîné les pieds, passé par toutes sortes d'expédients pour venir en aide aux pays plutôt que de leur acheter leurs dettes à travers les MES et autres fonds européens de stabilité. Aujourd'hui, je pense que les autorités européennes, y compris l'Allemagne, se sont rendues à cette raison et acceptent, bon gré mal gré, que le Draghi-Put fonctionne et que c'est aujourd'hui la seule manière de sauver l'euro et en même temps la seule manière de remettre l'Europe sur les rails. Alors les politiques d'austérité, certes, elles ont par certains côtés un caractère contre-productif puisque c'est un peu le rocher de Sisyphe. Hein, on continue de lutter contre les déficits, mais en fait, ex post, ce déficit ressemble beaucoup à ce qu'il était ex ante. C'est plutôt la politique de réforme qui importe. Plutôt que de parler d'austérité, je pense qu'il faut parler de réforme. C'est-à-dire accompagner la reprise engendré par les voies monétaires, comme je viens de l'indiquer, par des programmes de réformes structurelles de longue haleine, un petit peu sur le modèle de ce que les Allemands ont fait il y a une dizaine d'années.